de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le président Jokowi propose 3 efforts conjoints du G20 pour accélérer les ODD. Les produits par Dacia attirent l'attention à l'Expo 2020 Dubaï. L'Indonésie et le Royaume-Uni renforcent leur engagement en faveur de l'économie verte grâce à une faible émission de carbone. L'Australie et la Turquie soutiennent la présidence indonésienne du G20 en 2022. L'Australie autorise les voyages sans quarantaine. 7 soldats maliens tués dans une attaque lorsqu'ils patrouillaient. Au deuxième jour du sommet du G20, les participants discutent du changement climatique. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. Le président Joko Widodo a proposé 3 efforts conjoints qui pourraient être déployés par les pays du groupe de 20 ou G20 pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable ou ODD. Le président Joko Widodo, lors de la session du sommet du G20, a discuté du développement durable à la Nuvola, Rome, Italie, dimanche, a déclaré que 3 efforts conjoints que les pays du G20 pourraient déployer pour accélérer la réalisation des ODD était de renforcer la solidarité pour aider les pays et les personnes les plus vulnérables et de renforcer les partenariats mondiaux pour aider à financer et à accéder à la technologie pour pays en voie de développement. Troisièmement, améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face aux futurs chocs et incertitudes, en particulier dans le secteur de la santé, la capacité fiscale et la capacité de planification et de mise en œuvre du développement. Selon le président Joko Widodo, en tant que grand parapluie pour la réalisation des droits au développement durable, la cible des ODD doit être de plus en plus combattue. Un certain nombre des principaux produits d'exportation d'acier ont reçu une grande attention de la part des visiteurs de l'Expo 2020 Dubaï aux Émirats Arabes Unis. La délégation du gouvernement d'acier par l'intermédiaire du Bureau de l'Industrie et du Commerce d'acier est en charge du programme d'exposition roulante du pavillon indonésien à l'Expo 2020 Dubaï du 29 octobre au 4 novembre 2021. La délégation du gouvernement d'Aceh présente et promeut les produits de qualité supérieure d'Aceh orientés vers l'exportation. Ces produits ont fait l'objet d'une sélection ou curation par l'organisateur de l'événement, à savoir Royal Indo, qui est en charge du pavillon indonésien et a reçu l'approbation du ministère indonésien du commerce. Le chef de l'équipe de l'exposition roulante, Diah RT Idawati, dans un communiqué à Jakarta, a déclaré dimanche que les produits d'exportation supérieure d'Aceh qui étaient inclus dans l'exposition internationale comprenaient la décoration intérieure, les accessoires, les sacs à motifs Aceh, la mode, l'arabica et le café robusta, ainsi que du poivre, des clous de girofle, de la muscade et du chocolat. Le ministre indonésien de la Planification du Développement National, ou PPN, le chef de Bappenas Suharto Mono Arfa, a souligné l'engagement de l'Indonésie et du Royaume-Uni à mettre en œuvre une économie verte et à équilibrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux à travers des programmes de développement à faible émission de carbone. Suharto l'a confirmé après avoir rencontré le ministre britannique du Pacifique et de l'Environnement, Lord Zach Goldsmith, lors d'une visite de travail à Londres, en Angleterre. Suharto, dans un communiqué reçu dimanche à Jakarta, a déclaré que la collaboration entre les gouvernements indonésiens et britanniques a fourni une base solide à l'Indonésie pour se diriger vers une économie plus durable grâce à diverses études politiques. La coopération entre l'Indonésie et le Royaume-Uni dans le cadre de développement à faible émission de carbone, qui a débuté depuis 2017, entre maintenant dans une phase de transition vers la deuxième phase qui débutera de 2022 à 2025 avec des objectifs plus stratégiques et des impacts à long terme. Le ministre coordinateur de l'économie Erlangga Hartarto a déclaré que l'Australie, la France et la Turquie soutenaient fermement la présidence indonésienne du G20 2022. Lors d'une réunion avec le premier ministre australien Scott Morrison, des discussions ont eu lieu sur l'énergie et le changement climatique, ainsi qu'en tant que technologie disponible et abordable pour pouvoir accélérer la formation d'un système d'énergie verte en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Erlangga dans sa déclaration officielle à Jakarta dimanche dernier. Ensuite, la discussion sur Vaccinated Travel Line, ou abrégée en VTL, a également été discutée où l'Australie revitalisera les touristes et permettra à leurs citoyens ou WN de voyager à l'étranger, y compris en Indonésie, en particulier pour les WN qui ont été vaccinés deux fois ou doses complètes. Il a déclaré que lors d'une réunion avec le président français Emmanuel Macron, ils ont discuté de la coopération dans le domaine des principaux systèmes d'armes ou d'équipements de défense produits avec les deux pays, y compris l'implication, la disponibilité et le contenu local. De même, avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Erlangga a déclaré que l'Indonésie et la Turquie ont discuté de la coopération CEPA turco-indonésienne, en particulier concernant l'huile de palme brute indonésienne. Les voyages sans quarantaine de la Nouvelle-Zélande vers l'Australie sont à nouveau autorisés à partir de lundi, a déclaré dimanche le ministre australien du tourisme Dan Tehan. Tehan a déclaré que la reprise des voyages sans quarantaine de la Nouvelle-Zélande vers l'Australie était le prochain nouveau chapitre du processus dans lequel nous nous dirigeons vers la reprise. Les voyages sans quarantaine seront à nouveau autorisés lorsque l'Australie se prépare à rouvrir partiellement ses frontières internationales pour la première fois depuis mars 2020. Pour l'instant, seuls les touristes du pays voisin, la Nouvelle-Zélande, sont autorisés à entrer en Australie, à condition qu'ils aient été vaccinés contre la COVID-19. L'Australie a fermé ses frontières depuis le début de la pandémie. Actuellement, plus de 80% des personnes âgées de 16 ans et plus vivant en Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria et à Canberra, ont été vaccinées. Ce pourcentage est le seuil à atteindre avant la réouverture des voyages internationaux. 7 soldats maliens ont été tués lors de deux attaques distantes samedi lorsqu'ils patrouillent dans la région du centre-ouest du pays. L'armée malienne a déclaré que l'attaque était la dernière effusion de sang à avoir éclaté et a montré que la violence se déplaçait vers le sud qui était auparavant la région de paix. Vers 11h20, heure locale, Un convoi militaire a été attaqué près de la ville de Mourdia, à environ 200 km au nord de la capitale Bamako, faisant 2 morts et 3 blessés. 2 heures plus tard, un camion militaire a été touché par une bombe en bordure de route près de Ségou, à environ 200 km au nord-est de Bamako, et les 5 personnes à bord sont décédées. Comme l'a rapporté Reuters dimanche dernier, l'armée n'a fait aucune allégation sur le groupe qui aurait pu perpétrer les 2 attaques. Les dirigeants des principaux groupes économiques mondiaux, les G20, se sont réunis pour le 2e jour de la réunion dimanche et ont cherché à rapprocher les différents points de vue sur la gestion du réchauffement climatique. Le sommet du G20 s'est tenu à Rome, en Italie, face à face pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a commencé à frapper. Le premier jour du sommet, les entretiens des dirigeants se sont concentrés sur les sujets de la santé et de l'économie. Le climat et l'environnement sont devenus les principaux sujets de discussion du 2e jour de la réunion. Le réchauffement climatique est un sujet de discussion avant le sommet qui sera organisé par les Nations Unies sur les changements climatiques. Le groupe du G20, qui comprend le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Allemagne et les États-Unis, émet environ 80% de gaz à effet de serre dans le monde. Les scientifiques avertissent que le pourcentage doit être fortement abaissé pour éviter une catastrophe climatique. Par conséquent, le sommet qui a lieu ce week-end est considéré comme tremplin important vers le sommet des Nations Unies sur le climat COP26 auquel ont participé près de 200 pays. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Prévenir le pic de COVID-19 en fin d'année ». Vous êtes avec moi, Audrey. Les vacances de Noël et du Nouvel An sont encore dans moins de 2 mois. Cependant, le gouvernement indonésien a commencé à exhorter les gens en particulier ceux qui vivent dans les villes à ne pas se rendre dans leur ville natale comme d'habitude. À la fin de cette année, ceci afin d'éviter un pic de cas de COVID-19 après les vacances de Noël 2021 et du Nouvel An 2022. Le gouvernement contrôle également la mobilité communautaire et resserre les protocoles sanitaires. Le ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Mohajir Effendi, a déclaré la semaine dernière que le congé collectif, qui est généralement appliqué les jours proches des jours fériés officiels tels que Noël, le Nouvel An ou l'Aïd al-Fitr, sera cette fois aboli. Y compris la veille de Noël qui est le vendredi 24 décembre 2021. La suppression des congés collectifs vise à limiter la mobilité des personnes qui augmente généralement vers les fêtes de fin d'année. L'objectif est de réduire le potentiel de propagation de COVID-19. De plus, un certain nombre d'épidémiologistes ont mis en garde contre la possibilité d'une troisième vague d'attaque de COVID-19. Pour éviter une augmentation des cas positifs de COVID-19, le ministère des Transports, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'aviation civile, a publié les dernières règles concernant les conditions d'embarquement dans un avion. Entre autres, pour les vols sur Java-Bali, les passagers sont tenus de présenter une carte de vaccination minimum première dose et des informations négatives COVID-19 via RT-PCR, échantillon maximum 3 sur 24 heures avant le départ. Pendant ce temps, en dehors de Java, les exigences sont plus ou moins les mêmes. Certains gouvernements locaux appliquent même une politique de système impair-pair pour les numéros de véhicules de voitures privées afin de limiter les déplacements des personnes. Le Center for Disease Control and Prevention, CDC des États-Unis, ont en effet abaissé le niveau de COVID-19 pour l'Indonésie. Après avoir été jugé avoir réussi à effectuer un bon contrôle de COVID-19, l'Indonésie s'est vue attribuer un niveau 1 ou faible pour la propagation de COVID-19. Cependant, cela ne signifie pas que l'Indonésie est complètement à l'abri de la pandémie. Ni le gouvernement ni le public ne doivent faire preuve de négligence quant à la propagation du virus. L'expérience montre que l'Indonésie a toujours connu une augmentation du nombre de propagations de COVID-19 à la fin de la longue période de vacances. La saison des vacances d'août 2020, par exemple, a entraîné une augmentation des cas allant jusqu'à 119% et le taux de mortalité hebdomadaire à 57%. Pendant ce temps, en mai-juin 2021, l'Indonésie a subi la vague de COVID-19 en raison d'une combinaison de facteurs de variantes Delta et de protocoles de santé négligés pendant les longues vacances de l'Aïd al-Fitr. Actuellement, un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni et Singapour, connaissent une augmentation des cas quotidiens. Ainsi, il est tout à fait naturel que le gouvernement indonésien promulgue diverses politiques pour empêcher tout retour potentiel de la tempête COVID-19, en particulier avant les longues vacances de Noël 2021 et du Nouvel An 2022. Pour chercher tard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
On va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er novembre 1945. L'Australie adhère aux Nations Unies. L'Australie a été l'un des pays fondateurs des Nations Unies, ONU, le 1er novembre 1945 et elle est active dans l'organisation depuis sa création. L'ONU est considérée par le gouvernement australien comme un moyen d'influencer les événements qui ont un impact direct sur les intérêts de l'Australie, mais échappent au contrôle unilatéral de l'Australie. Depuis qu'elle a rejoint les Nations Unies, l'Australie a été activement impliquée dans l'institution internationale. L'Australie a pas seulement joué un rôle dans la rédaction de la Charte du Conseil de sécurité, mais a également occupé le premier président du Conseil en 1946. On continue avec l'événement du 1er novembre 1999. La Banque d'Indonésie a émis des billets de 100 000 roupies. La Banque d'Indonésie, BI, a émis un billet de 100 000 roupies le 1er novembre 1999 en tant qu'instrument de paiement officiel. L'argent était fait de substrat polymère plastique qui est plus durable et difficile à contrefaire que le papier. À éviter fraude, l'argent a été équipé d'éléments anti-contrefaçon qui peuvent être vus et touchés afin que les gens soient familiarisés avec l'authenticité de l'argent. Le gouvernement de la Banque d'Indonésie à l'époque, Syahril Sabirin, a expliqué que l'émission de cette nouvelle émission de l'argent était de simplifier et d'accélérer les transactions en espèces. L'image principale sur le front de l'argent est le docteur ingénieur Sukarno et le docteur Mohamed Hatta. Tandis que de l'autre côté, il y a une photo du bâtiment du Parlement indonésien qui vise à promouvoir le respect de chacun d'eux et de plus hautes institutions pour leur valeur démocratique. On finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er novembre 2006. Nelson Mandela a été nommé comme ambassadeur de la conscience par l'Amnesty International. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a décerné le 1er novembre 2006 le titre d'ambassadeur de la conscience à Nelson Mandela. Le prix a été décerné par Amnesty International à des personnes considérées comme ayant apporté une contribution majeure à la protection des droits de l'homme. La prix a été décerné parce que Mandela a été considéré comme une contribution majeure à la protection des droits de l'homme. Mon cher Gitar, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et en pour le titre, l'Inde devient un partenaire stratégique du commerce des épices de l'Indonésie. L'Indonésie, l'un des meilleurs pays producteurs d'épices au monde, s'efforce à accroître la prospérité de la population par le commerce international. L'Inde, avec l'Inde, le troisième pays de destination des exportations d'épices indonésiennes. L'Inde est désormais un partenaire commercial stratégique de l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du développement des exportations nationales, Didi Sumedi, dans un webinaire mercredi le 27 octobre. Ce webinaire fait partie d'une série d'activités à l'exposition du commerce indonésien de l'édition numérique 2021 qui se déroule du 21 octobre au 4 novembre 2021 de manière interactive en ligne et jusqu'au 20 décembre 2021 avec une vitrine. Ce webinaire est assisté par le consul général de la République d'Indonésie à Mumbai, en Nantes, Agus Saptono, l'agent chargé de la coordination du tourisme et de l'économie créative du ministère de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, ODRM Manhutu, le directeur régional de l'autorité de la sécurité et du standard de l'alimentation de l'Inde, FSSAI, du ministère indien de la santé et du bien-être familial, Priti Chaudhary. Didi Sumedi espère que cette activité sera utilisée pour développer le marché des épices dans les deux pays. Il a dit que l'Indonésie a des épices abondantes. Les exportations d'épices indonésiennes de janvier à août 2021 ont été enregistrées à 499,1 millions de dollars américains, soit une augmentation de 12,88% par rapport à la même période de l'année précédente. Les principaux produits d'exportation d'épices de l'Indonésie sont la muscade, les clous de girofle, le poivre blanc, la cannelle et la cardamome. Pendant ce temps, le consul général Agus Saptono a déclaré dans son discours que ce webinaire vise à fournir des informations et des connaissances sur l'accès au marché pour les épices et les produits à base d'épices qui constituent le pilier du commerce entre les deux pays depuis des centaines d'années. Les épices ont également un rôle important dans l'histoire des relations publiques entre les deux pays. Selon lui, ce webinaire est aussi un moyen d'information sur les approches stratégiques pour les intervenants, les petites et moyennes entreprises qui peuvent être un catalyseur de la valeur ajoutée des produits d'épices. Agus Saptono a ajouté que la demande d'épices indonésiennes du marché indien augmente rapidement, même pendant la pandémie. L'Inde, avec une population d'environ 1,4 milliard d'habitants, est une nation qui a l'habitude de consommer des aliments et des boissons contenant des épices dans sa vie quotidienne. Cela signifie que l'Inde est un énorme marché pour les épices et les produits d'épices transformés indonésiennes. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Hatiku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, c'est Jolie Talk. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture des diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter la plage Kali Ulu à Pacitan, Java Est. Une plage propre et calme avec du sable blanc et pas encore touché par le développement des infrastructures devient souvent un choix de touristes pour se libérer de l'agitation et les occupations de la ville. La plage de Kali Ulu, située dans le village de Klesem, dans le district de Kebon Agung à Pacitan, dans l'est de Java, est l'une des plages qui offre un enchantement incroyable. La plage a une distance d'environ 35 km de Pacitan et prend environ 1 à 2 heures. En arrivant à la plage de Kali Ulu, vous pourrez explorer des parties de la plage typiques. Si vous marchez du côté ouest, vous trouverez donc de hautes falaises qui deviennent la frontière entre la plage et la terre. En outre, il y a aussi des bateaux de pêcheurs colorés. Ces bateaux sont délibérément amarrés du côté ouest par les pêcheurs. « Le passage qui est présenté par la plage de Kali Oulu vous émerveillera. Des cercles de coquilles qui deviennent caractéristiques de la plage vous présenteront la beauté. L'eau bleue vous rendra heureux de nager ou seulement de jouer à l'eau. En plus, je veux dire en plus fort avec des vagues typiques de la plage sud ainsi que des coraux et des pierres sont caractéristiques de la plage, située à l'est de Pacitan. À la plage, vous pourrez également profiter d'une belle cascade. La cascade est généralement utilisée par les touristes pour nettoyer les coques du sable et de l'eau de mer. Son eau fraîche provient directement d'une colline située autour de la plage. En outre, les touristes apprécient également les paysages naturels autour de la cascade. Le paysage est assez beau qui fait beaucoup de touristes prennent des photos autour de la cascade. Chers auditeurs, pour aller à la plage de Kali Oulu, vous pouvez utiliser le transport terrestre. Mais vous devez faire attention car la route monte et descend. Les falaises abruptes et certaines routes ne sont pas encore pavées. Le voyage à la plage vous fatiguera, mais tout ne sera plus ressenti après avoir profité de la beauté de la plage. Chers auditeurs, si vous avez l'intention de passer des vacances sur la plage de Kali Oulu à Pacitan, certaines choses doivent être remarquées pour que vos vacances soient agréables. Prenez par exemple, vérifiez votre véhicule avant d'utiliser, apportez votre propre équipement, ne nagez pas loin de la plage. Si vous aimez le surf, il est préférable d'obtenir l'autorisation de la direction ou du garde-côte et de ne pas jeter les ordures sans précaution. Chers auditeurs, c'était le magazine Futura pour ce soir, avec comme titre « La plage de Kali Oulu à Pacitan dans la province de Java Est ». Merci de votre attention, à demain!
Sirna, oh indah.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Meminta Petunjuk, je répète, Meminta Petunjuk. En français, demander de l'instruction. Je vais vous donner une conversation dont le titre est Silakan pergi ke halte bus. Silakan pergi ke halte bus signifie allez à l'arrêt d'autobus, s'il vous plaît. Bonne écoute. Cette conversation a eu lieu entre Kevin et l'employé de l'hôtel. Kevin a demandé comment aller à la rue Asia Africa depuis l'hôtel. L'employé de l'hôtel a donné l'instruction à Kevin.
Kalau saya naik bus, bagaimana?
Silahkan pergi ke halte bus, Pak.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Silakan pergi ke halte bus. Silakan pergi ke halte bus signifie aller à l'arrêt d'autobus, s'il vous plaît. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Kalau. Kalau signifie si. Saya. Saya signifie je. Naik bus. Naik bus signifie prendre le bus. Silakan. Silakan signifie s'il vous plaît. Pergi. Pergi signifie aller. Ke halte bus. Ke halte bus signifie à l'arrêt d'autobus. Belanja daring. Belanja daring signifie faire des achats en ligne. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya signifie comment faire? Unduh. Unduh signifie télécharger. Aplikasi. Aplikasi signifie l'application. Jual beli. Jual beli signifie acheter et vendre. Gawai. Gawai signifie l'appareil ou le gadget. Restaurant. Restaurant signifie le restaurant. Naik lift. Naik lift signifie prendre l'ascenseur. Ke lantai lima. Ke lantai lima signifie au cinquième étage. Dans la conversation, vous entendez la phrase Silakan pergi ke halte bus. Silakan pergi ke halte bus signifie aller à l'arrêt d'autobus, s'il vous plaît. C'est une phrase pour donner des instructions. Pour donner une instruction, vous pouvez utiliser des mots impératifs tels que pergi. Pergi signifie aller. Vous pouvez ajouter le mot silakan. Silakan qui signifie s'il vous plaît pour donner l'instruction. Un autre exemple, Écoutons un autre exemple du mot impératif pour donner une instruction. Kalau ingin belanja daring, bagaimana caranya? Kalau ingin belanja daring, bagaimana caranya? Signifie si on veut faire des achats en ligne, comment fait-on? Silakan unduh aplikasi jual beli di gawaimu. Silakan unduh aplikasi jual beli di gawaimu. Signifie téléchargez l'application d'achat et de vente sur votre appareil s'il vous plaît. Saya ingin ke restoran, bagaimana caranya? Saya ingin ke restoran, bagaimana caranya? Signifie je veux aller au restaurant, comment faire? Silakan naik lift ke lantai 5, Pak. Silakan naik lift ke lantai 5, Pak. Signifie s'il vous plaît, prenez l'ascenseur jusqu'au 5e étage, monsieur. Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Kalau saya naik bus, bagaimana?
Silahkan pergi ke halte bus, Pak.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir. Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson croncheon intitulée « Persembahanku » chantée par M. Rivani. Chers auditeurs, la chanson de Abdel Ghani et Uchin est une chanson qui contient l'esprit de sacrifice et de dévouement au pays et à la nation. Dans les paroles de cette chanson, il est écrit que l'âme est prête à se consacrer à la patrie, l'esprit que tout le monde devrait avoir. La chanson de Kronchon a un tempo moyen accompagné d'une musique sereine de Kronchon. Mon cher joueur, voici M. Rivani va chanter une chanson Kronchon intitulée « Persembahanku ». Bonne écoute. Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.